Vous écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
Jean-Paul Chabot, bonjour. Vous êtes le président des études comptadines.
Oui, en effet. Oui.
Les études comptadines avec la revue semestrielle du même nom.
C'est exactement.
Ça ouais. Donc vous allez nous présenter un peu l'association. Je pense qu'on en est à quel numéro des études comptadines ?
Ben, c'est une revue qui paraît deux fois par an, donc semestrielle. Elle a débuté en 2004, donc il y a maintenant 14 ans. Et nous sommes en train de préparer le numéro 28. Donc, ça fait 14 ans que ça existe. Et cette association a pour but de s'intéresser à l'histoire du comptable vénécien. Donc, oui. C'est vrai qu'elle est circonscrite sur un certain territoire qui couvre, disons, qui va du Ventoux, Malocène, l'Île-sur-Sorgue, Monteux. Voilà, c'est un territoire qui est quand même géographiquement assez, assez restreint. Et il est vrai que quand nous avons fait paraître le numéro 1, donc il y a 14 ans, nous ne savions pas qu'il y aurait un numéro 2.
Ah oui.
Et encore moins qu'il y aurait un numéro 28, donc qui arrive au mois d'avril. Là, voilà.
Donc, c'est des publications qui sont quand même riches et qui vont puiser dans les archives, dans des écrits, dans toutes sortes
de supports, bien
de supports que vous recherchez en permanence.
Exactement, oui, parce que nous consacrons surtout à des sujets inédits, c'est-à-dire que nous ne voulons pas recopier ce qui a déjà été fait hein, par les autres dans les siècles précédents. Il est vrai que nous nous intéressons à toutes les disciplines, tous les thèmes de toutes les périodes. Quoi, hein. Il n'y a pas de limite, donc hein, on peut très bien parler du début du comptable vénécien jusqu'à nos jours, on peut aussi.
C'est vrai que sur le nombre de revues parues, il y a eu énormément de sujets abordés.
Oui, environ 10 sujets par numéro.
Oui, ce qui fait
donc,
pas mal.
Voilà, oui, ce qui fait, je ne sais plus, environ 1500 pages d'écrites jusqu'à aujourd'hui. Quoi, voilà.
Donc il y a des mémoires, des thèses, des écrits qui sont faits pour l'occasion, qui sont demandés pour l'occasion.
Oui, ben c'est une association. Enfin, les sujets, les pages sont ouvertes à tous, à hein, toutes les bonnes volontés qui veulent bien étudier le comptable vénécien. Hein, bien sûr, c'est une étude de chaque fois. Chacun peut déterminer, quiconque peut déterminer un sujet qui l'intéresse, une chapelle, un personnage, une période de la. D'un siècle, et puis le travailler, quiconque n'est pas obligé d'avoir, on ne demande pas de diplôme, on ne demande rien de spécial, simplement que les études soient d'intérêt. Voilà,
hein, oui, par rapport à l'histoire.
Et puis chacun devient alors un étudiant comptadin.
D'accord. Bon. Et au-delà de la revue, il y a aussi des ouvrages qui ont été publiés.
Oui, bien sûr, entre autres, chaque fois que nous avons un sujet particulier, quoi, on peut faire un livre entier. Quoi,
voilà. Le STO en Vaucluse, par exemple, il y a eu un ouvrage sur Alibert, la chapelle de la Madeleine.
Exactement.
À Bédouin.
Oui.
Il y a eu un travail particulier de fait là-dessus.
C'est une brochure scientifique qui a été faite sur cette chapelle, qui est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne chapelle romane de Provence. Donc, c'est un sujet particulier. Voilà.
Oui, monument privé en plus, d'ailleurs.
Monument privé,
c'est ça.
C'est exact, oui, bien sûr.
André de Richaud a aussi inspiré un autre bouquin. Bon, il est connu quand même sur le comptable vénécien.
On a trouvé d'André de Richaud des nouvelles, parce qu'il écrivait beaucoup de nouvelles.
Oui.
Donc, des nouvelles inédites. Voilà. Donc, il y a 5-6 ans environ, nous avions amasser ces nouvelles et on avait fait un recueil, donc on avait édité André de Richaud, ce qui était aussi particulier pour une petite association comme la nôtre. Quoi.
Oui, il y a eu aussi un sujet sur le costume comptadin.
Ah oui, ça a été un travail de 5 années environ, donc avec 2 ou 3 personnes.
Dont vous êtes l'auteur quand même, non ? Ou le co-auteur ?
Principalement, voilà, oui. C'est moi qui avais un petit peu dirigé le livre, quoi. Donc, le conservateur du musée de Carpentras avait participé, Madame Derone aussi, qui est une retraitée de l'éducation nationale, et puis Anne Labérento, qui est aussi à l'origine de la fabrication des costumes. Donc, c'est une étude qui a duré 5 ans, parce que il fallait bien trouver des images du costume. Donc, j'avais choisi l'option d'aller chercher dans les peintures du 19e siècle toutes les traces des personnes peintes, ce qui démontrait le caractère de leur du costume. Hein.
Donc une recherche importante qui dure sur des années, en effet.
Oui, très intéressant d'ailleurs.
Donc ça donne l'occasion d'aller dans les archives, mais aussi dans les musées, parce que je crois qu'il y a eu aussi un ouvrage sur les peintres qui ont peint le Ventoux.
Oui, il y a eu deux ouvrages. C'est mon premier livre, en 2001, Les peintres autour du Ventoux. Donc c'est une somme de notices biographiques sur les peintres qui ont travaillé dans le Ventoux ou au pied du Ventoux. Hein, voilà, donc. Et ensuite, là, il y a un an environ, est paru un livre sur le Mont Ventoux, mais qui retrace toutes les peintures du Mont Ventoux sur 7 siècles, donc du 15e au 21e siècle.
Ce qui veut dire aller dans tous les musées, enfin, dans la mesure où c'est accessible, pour aller prendre en
Exactement.
photo les toiles.
Exactement,
Ça,
oui.
c'est
Et
un
puis
travail.
ma petite mission personnelle, c'est aussi d'aller chez les particuliers, montrer ce que nous ne voyons pas, quoi, disons, hein, habituellement. Parce que les musées, on peut facilement voir. Mais chez les particuliers, on n'y va pas. Donc j'essaye quand même de taper aux portes, d'avoir par le relationnel, par le
Mais
bouche à
découvrir des
oreille.
œuvres qui restent dans les sphères privées.
Exactement, et j'en trouve toujours. Donc ça, c'est quand même, avec l'autorisation des propriétaires, c'est toujours agréable de montrer.
Très bien. Si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale.
RTVFM, première radio locale associative de Carpentras.
Chaque matin je me réveille, mon cœur entend le vent chanter l'espoir. Je veux pas rater l'essentiel, mais je sais que je serai un héros ce soir. Et moi, comme tout le monde, je ne sais pas ce qui m'attend. Ce soir mes rêves sont grands, alors j'attends que la nuit tombe. Je veux sauver le monde, pendu au fil du temps, à chaque instant, chaque seconde. Elle ne peut rien faire contre le printemps. Je vais un peu mieux qu'hier, mais demain j'irai mieux assurément. Et moi, comme tout le monde, dans cette course folle, je cherche ma boussole, mais s'il paraît que la terre est ronde. Je suis pas comme tout le monde, et si la peine se colle, j'attends que l'amour lui. L'amour t'inonde.
Écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
avec aujourd'hui Jean-Paul Chabot, donc des études comptadines.
Exactement.
Qui nous a présenté un petit peu l'histoire de l'association, les nombreux ouvrages qui sont publiés régulièrement. Et j'aurais aimé revenir un petit peu sur ce travail particulier sur les archives, parce que ce n'est pas comme du roman. Hein. On écrit là, mais à partir de recherches qui sont souvent longues et parfois compliquées.
En effet. C'est vrai que lorsqu'on détermine un sujet, alors...
Le choix du sujet d'abord. Qu'est-ce
voilà,
qui fait qu'on va
c'est
aller...
C'est un peu la première question qu'il faut... essayer de résoudre, mais je crois que c'est comment moi, par exemple, je rencontre un sujet d'intérêt.
Le STO en Vaucluse, il faut quand même, par exemple.
Oui, mais le STO, c'est une édition d'un travail universitaire fait par une étudiante.
Ah, hein, d'accord.
Qui était, voilà, donc ce n'est pas moi qui ai travaillé ce sujet, bien sûr. Et cette étudiante avait été très heureuse aussi, à 22 ans, de pouvoir... éditer son travail universitaire. Donc, nous étions très heureux aussi d'aider la jeunesse à sortir leur mémoire de maîtrise ou leur thèse de tiroir dans lequel ils peuvent le ranger, malheureusement, une fois leurs études terminées. Donc, à la fois l'étudiante et les études comptadines étaient heureuses de faire cette...
Ça, c'est une approche intéressante aussi, effectivement.
Oui, c'est une facette qu'on aurait aimé développer, mais bon, c'est pas facile avec la faculté qui se réserve les travaux des étudiants.
Voilà. Ah, d'accord.
On n'a pas toujours accès à ces travaux. Voilà.
Et pour les autres sujets qui sont choisis et sur lesquels, après, il y a des recherches qui doivent s'engager avant de pouvoir arriver au stade de l'ouvrage ?
Oui, parce qu'il est vrai qu'on... On choisit le sujet, bien sûr, avant de découvrir les archives. Et on ne sait pas toujours, on ne sait jamais où on va d'ailleurs, hein, quand on détermine un sujet. Et puis bon, on le découvre et puis on va un peu à l'aventure, hein, dans les archives, justement. Donc souvent, nous travaillons avec la bibliothèque Anglais-Humbertine de Carpentras, hein, et puis les archives départementales d'Avignon, et puis quelques bibliothèque aussi d'Avignon, dont la bibliothèque Sécano, quoi, hein, donc qui a des archives aussi particulières. Quoi, hein. Et comme je disais précédemment, nous recherchons surtout faire connaître des sujets inédits et donc nous essayons de trouver des archives inédites. Voilà, donc.
Le dernier sujet sur lequel vous avez travaillé qui intéresse donc le comte Avenessin.
Eh bien, c'est un sujet sur un peintre. C'est moi qui ai fait ce livre, d'ailleurs. Voilà, c'est pour parler de moi.
Mais c'est très bien.
Donc, c'est un livre sur le peintre Pierre Laplanche, qui a été peintre, professeur de peinture au petit séminaire de Saint-Didier.
Ah oui.
Voilà. Bon, voilà, pendant presque tout 60 ans du 19e siècle. Donc, il est considéré comme un petit peintre, mais quand on voit sa peinture, son dessin, beaucoup d'amateurs de peinture l'apprécient. Donc j'espère que j'ai fait ce petit livre pour qu'il existe. Quoi, hein, voilà.
Et vous avez retrouvé des œuvres dans les musées, chez les privés
Voilà, exactement. Donc toujours ma recherche. Hein, on commence toujours par savoir ce qui existe aussi dans les musées, parce que c'est souvent eux qui ont les plus belles pièces, entre guillemets. Hein, voilà.
Bien sûr.
Et ensuite, c'est pas exclu aussi que nous trouvions des belles pièces des pépites, comme je dis, chez les particuliers, ce qui est aussi une recherche intéressante.
Et pour les peintres, c'est la même chose. Donc les peintres du Ventoux, là, le dernier ouvrage, c'était aussi une quête à mener auprès des particuliers, souvent.
Bien sûr, exactement. Et nous avons trouvé aussi là des pièces intéressantes et des inédite aussi, voilà, c'est toujours de l'inédit que nous cherchons.
Mais en général, les gens sont très contents de faire partager leur...
Oui. Au début, ils se demandent un petit peu pourquoi on vient les solliciter.
Oui.
Mais enfin, bon, quand ils savent pourquoi, je crois qu'ils en sont heureux. C'est normal, hein, de montrer un petit peu. Mais après, c'est vrai que ces archives ne sont pas nominatives, donc on ne dit pas exactement... On n'indique pas à qui appartiennent les œuvres. Quoi.
Tout à fait.
Oui, c'est pas utile. Le principal, c'est que l'œuvre soit visible. Quoi. Voilà, hein. Puis il y a aussi des études sur les comtadins qui sont allés dans les guerres napoléoniennes. Et puis, malheureusement, ce qui m'a intéressé, c'est lorsque on a ouvert les archives de la guerre de 14-18.
Oui.
Je me suis demandé un petit peu, bon, je me suis dit, beaucoup de villages, hein, et ça s'est avéré juste, vont s'intéresser à leur monument aux morts et à leur,
Oui.
aux gars du village qui sont morts. Et donc, je me suis dit, vers où on pourrait, jusqu'où je pourrais remonter pour faire aussi, pour parler de ces contadins qui sont morts dans les guerres. Et je suis remonté aux guerres napoléoniennes, et bien m'en a pris parce que ils sont notés dans l'état civil, les registres d'état civil sont notés ces contadins qui ne sont pas revenus, quoi. Donc, dans l'état civil, des registres d'état civil de
Oui.
chaque village, j'ai passé un bon hiver à chercher ça.
J'imagine, parce qu'il faut déjà aller savoir dans quel village il faut aller, peut-être, non?
Oui, exactement. Mais
C'est ça?
j'ai fait tous les villages du Ventoux,
Ah
du
oui,
Ventoux, du Vaucluse,
du
pardon, du
Vaucluse,
Vaucluse.
oui.
Et donc chaque village avait, au moment où le maire recevait l'avis de décès de la préfecture, qui, elle l'avait reçu du bivouac ou de l'armée. Donc, l'enregistrer, des fois, 3 mois, 6 mois après le décès, quoi. Mais bon, il fallait chercher à chaque page, et méthodiquement, il fallait rechercher ces jeunes qui ne sont pas revenus des guerres napoléoniennes,
On en parle
souvent
moins, oui.
d'Italie et d'Espagne. Voilà, oui.
Combien à peu près de disparus
Oh,
dans
ben
ces
voilà, on
conditions?
disait que ces guerres avaient fait énormément de morts, mais je crois que par rapport à 14-18, c'était pas terrible, que c'était pas beaucoup. Enfin, au moins de comptades, de Français, quoi, au moins de Français. Mais enfin, dans le comptage, j'en ai dénombré grosso modo 1700, quoi, voilà, sur une douzaine d'années. Donc
C'est quand même
c'est
beaucoup,
beaucoup, mais
oui.
bon, c'est toujours trop, naturellement. Mais c'était pas énorme, voilà. C'était pas des millions de morts comme dans d'autres guerres, quoi, voilà.
Ça apparaît dans un ouvrage alors?
Voilà, c'est paru il y a 3-4 ans déjà, voilà. Et
Et le
bon,
titre?
c'est ben, les contadins morts dans les guerres napoléoniennes.
D'accord.
Voilà. Donc, et puis d'autres études aussi sur un sculpteur qui se disait de Carpentras, sculpteur contadin, quoi. Donc, qui a sculpté le mausolée de Monseigneur d'Enghienvers, qui était un évêque de Carpentras. Hein.
Oui, tout à fait.
Et donc, il se disait sculpteur comtadin, mais on trouvait pas sa date de naissance et son lieu de naissance. Donc, j'ai cherché dans tous les villages du Comtat, vous me connaissez.
Ah oui, ça n'a pas dû résister, ça.
Et j'ai jamais trouvé. Donc, c'est quelque chose qui revenait en moi, quoi, hein, de temps en temps, qui me revenait dans ma mémoire. Et puis, j'ai mis à peu près une dizaine d'années à me décider, et puis finalement on l'a trouvé avec des généalogistes, on l'a trouvé à Marseille, quoi. Donc il est né à Marseille, mais il est vrai que il était quand même un peu contadin parce que ses parents, 9 mois avant sa naissance, 9 mois donc,
Eh oui.
s'étaient mariés à Carpentras.
Ah, il y avait quand même un lien.
Voilà, donc on aime bien trouver aussi. La recherche, c'est aussi d'aller chercher le petit détail. Si on élude les détails, on c'est pas sûr qu'on arrive à faire des bonnes études
Mais vous avez un tel souci du détail, de toute façon, que on va peut-être faire une petite pause et après on terminera sur toutes ces recherches.
Vous écoutez RTVFM, la radio locale de Carpentras sur le 102.2.
Je reste immobile. Sous mes allures un peu juvéniles, de poupées de chiffon ou d'argile. Crois-moi, je ne suis pas si fragile. J'ai le cœur à l'orage. J'ai laissé derrière moi les revers et le chaos. Soupir. blouse et coups de fil, fatigué des lumières de la ville. Crois-moi, je ne suis pas si facile.
Associativement vôtre sur RTVFM.
Donc Jean-Paul Chabot des études comptadines, on va poursuivre un petit peu la découverte des activités de cette association parce que je le rappelle, c'est une revue mais c'est aussi une association. Donc actuellement, il y a des travaux en cours, il y a des recherches qui se font dans l'objectif de faire paraître des ouvrages.
En effet, oui. Bien sûr, chaque année, depuis 14 ans, nous éditons une revue sous forme de livre. Ce n'est pas une revue municipale, c'est une forme de livre.
Une très belle présentation.
Qui comporte une dizaine de textes historiques. Voilà. Et donc, chaque année, bien sûr, nous prévoyons, d'un numéro à l'autre, nous prévoyons les deux numéros de chaque année. Donc, cette année, nous prévoyons... le numéro 28 qui va sortir au mois d'avril et le numéro 29 donc, qui sortira au mois d'octobre de cette revue semestrielle. Voilà. Donc, c'est toujours, nous sommes toujours en préparation d'un autre numéro. Donc, il est aussi nécessaire de contacter des étudiants, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes, qu'elles soient de la faculté ou simplement des historiens de village ou des gens intéresse à des sujets particuliers. Il n'y a pas de ségrégation, c'est ouvert à tout le monde.
Donc il y a déjà des thèmes qui ont été retenus?
Bien sûr, là voilà, le numéro 28 est presque terminé parce qu'il faut toujours du temps pour le mettre en page, pour l'imprimer, etc. Donc il faut toujours le préparer 2-3 mois à l'avance.
Et on peut parler de quelques thèmes déjà?
Oui, bien sûr, oui. Il va y avoir entre autres... ce qui m'intéresse particulièrement, parce que là, c'est moi qui ai tendu la perche à une étudiante qui va nous rédiger en une vingtaine de pages, toi, un petit peu, la vie des Juifs dans le Comtat avant et après la Révolution.
D'accord.
Donc, voilà, donc ça a été quelque chose, pour eux, pour ainsi dire, la Révolution a été comme une libération. Donc, voilà, donc ça, c'est un sujet très important. Et puis beaucoup d'autres sujets, surtout un petit sujet historique. Il y a toujours des sujets artistiques, des sujets historiques. J'essaye de mêler un peu.
Oui, souvent, il y a du patrimoine, il y a de la peinture, il y a de l'histoire.
Voilà, et puis donc, nous sommes un petit peu des rats, comme on dit, de bibliothèque.
Je pense, bien sûr.
La bibliothèque,
vous faites partie de ceux qui fréquentent le plus la bibliothèque d'Angamertine?
Je ne sais pas. Mais ça fait 35 ans que ça dure. Donc...
Sauf que vous êtes un peu perturbé aujourd'hui avec la nouvelle présentation.
C'est toujours pareil. Nous avons, moi particulièrement, j'avais 30 années, si vous voulez, de fréquentation de l'Angamertine. Donc on prend ses habitudes.
Forcément.
Bien sûr, on s'habitue au registre, aux recherches, aux façons de faire. Et puis aujourd'hui, ces moyens de recherche ont été... annulé pour être remplacé par les ordinateurs. Donc, la recherche n'est plus la même. J'ai été déstabilisé un petit peu.
Ah, voilà. Le numérique, oui, c'est oui, forcément.
Oui, bien sûr. Avant, la recherche était manuelle, on recherchait dans des fiches. Donc, on mémorisait, malgré nous, on mémorisait toutes les fiches qu'on feuilletait.
Des automatismes secrets.
Voilà. Ouais. On voyait des titres, et puis on mémorisait quand même, on s'instruisait, mine de rien, quoi, avec des titres d'archives. Et juste à ce qu'on tombe sur l'archive qu'on cherchait. Quoi, voilà. Donc, c'était une façon. Maintenant, donc, quand on va à l'ordinateur, lui, on ne feuillette pas de fiche, il faut essayer d'arriver directement à la bonne fiche. Quoi.
C'est différent.
Bon, ben, enfin, on va s'y faire, hein, bien sûr. Sinon, parce qu'on a d'autres projets, bien sûr. Voilà,
donc, alors, d'autres ouvrages en vue, d'autres...
Bien sûr, donc on travaille déjà, bien sûr, donc, sur le numéro d'octobre, voilà, hein, ouais. Donc, la revue. Et puis ensuite... Nous avons entamé à nouveau un livre. Bon, ça tombe sur encore un peintre, bien sûr, mais sur Denis Bonnet, lui aussi, il est né en 1789, vous voyez, et puis il est mort en 1877, je crois. Il a vécu 88 ans, vous voyez, donc la peinture entretient bien les personnes.
Effectivement.
Et donc voilà, c'est un petit peintre de Carpentras, mais à l'instar de Pierre Laplanche, qui peignait les mendiants et qui peignait les pauvres qui allaient chercher leur soupe au petit séminaire de Saint-Didier. Denis Bonnet, lui, peignait ce qu'il voyait dans les rues de Carpentras. Il peignait les gens, les petites situations, la dame qui donnait le sein à son petit.
La vie de tous les jours.
Voilà, et donc c'est pour nous... Je pense que c'est quelque chose de primordial, quoi, hein, qui parle de l'humanité, quoi, hein, de ce qui se passait vraiment chez les gens particulièrement. Donc, et c'est des traces de peinture, donc ce n'est pas non plus des traces des descriptions écrites, ce sont des peintures.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut retrouver ces œuvres dans des musées, chez des particuliers.
Toujours pareil.
Aussi chez des particuliers, on en trouve.
Oui, c'est ça. Peu, parce que bon, c'est un peintre qui a fait beaucoup de dessins, donc ils sont Alain Gambertine, il avait déposé ses carnets, ses albums de peinture ou de petites aquarelles, parce que souvent c'était pas toujours des tableaux, hein. Il faisait beaucoup de petits dessins ou de petites aquarelles de 10 cm par 10 cm, ils sont parlants et ils sont très intéressants. Par exemple, j'en ai inclus beaucoup dans le livre sur le costume contadin, parce que c'était au 19e siècle et c'était donc, il peignait les femmes en tenue quotidienne, quoi, oui, voilà. Et puis les hommes, bien sûr.
Donc ça permet de renouer avec la tradition.
Donc voilà, nous avons ces deux, pour l'instant, les deux numéros de la revue, hein, avril et octobre, et puis ce livre sur la peinture. Maintenant, il est possible encore que naisse un sujet.
Il y a encore un sujet à faire des recherches et un ouvrage qui va suivre.
Malgré que le territoire soit restreint et...
Il est riche en histoire.
Voilà. Et donc, je pense que comme tous les villages, tous les territoires ont une histoire particulière. Donc, on n'a pas peur du temps qui va arriver parce que...
Tant qu'il y aura des archives.
Ah, exactement. Et puis, je crois qu'on n'en aura jamais fait le tour, quoi, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, la bibliothèque Gambertine...
un peu en mouvance.
Transférant suite vers l'Hôtel Dieu. Donc, on est un petit peu déstabilisé. Mais enfin, on a prévu. Donc, on avait été faire des recherches avant cet état de fait où les portes sont plus souvent fermées qu'ouvertes. Donc, on n'a pas peur. On attend. On attend qu'elles réouvrent dans ce beau lieu que sera l'Hôtel Dieu de Carpentras. Quoi, voilà. Donc, nous irons volontiers voir tous ces tableaux, enfin.
Oui, ça permet de ressortir d'anciennes collections, voilà, effectivement. Voilà. Quant aux études contadines, on les trouve où ? On les trouve chez les libraires ?
Eh bien, on peut s'abonner aussi. Voilà, on cherche.
Vous avez un site ?
Un site. Et le site, c'est Études contadines, tout simplement. Il n'y en a qu'un dans le monde.
Donc, oui, c'est vrai.
On ne se trompera pas. Et ensuite, bon, sur les librairies de la région.
Hein, du Comtat, oui.
Carpentras. Oui, oui.
Donc la prochaine est à paraître en avril.
Voilà.
Très bien.
Tout juste.
Eh bien, on vous remercie, Jean-Paul Chabot.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
RTVFM à Carpentras sur le 102.2. Yeah, yeah, yeah.